Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi.
C'était un personnage qui pouvait vous montrer une familiarité sympathique et puis de temps en temps, il restait dans son monde. Mais c'était un grand homme, hein.
Souvenir de Chamalières, près de Clermont-Ferrand, fief du président des 70s. Valéry Giscard d'Estaing, décédé des suites du Covid à 94 ans. Nous réécouterons quelques moments clés de son septennat. Nous verrons ce que l'Europe d'aujourd'hui doit à VGE, qui en fut l'un des grands architectes. Et nous évoquerons cette extraordinaire campagne de 74, qui en dit beaucoup sur l'homme Giscard, avec celui qui l'a filmé, le cinéaste Raymond Depardon, invité d'Europe Midi. Dans le reste de l'actualité, la stratégie de vaccination qui se dessine pour la France, calendrier, public, logistique, administration du vaccin, tension extrême au procès Bismuth-Sarkozy, audience interrompue hier soir quand deux avocats ont failli en venir aux mains. Pour les tarifs de l'électricité, les heures creuses ne le sont pas tant que ça, l'écart de prix est devenu minime, nous le verrons. Et puis le télescope Gaïa vient de dévoiler une carte de plus d'1,8 milliard d'étoiles de notre galaxie avec une précision inégalée. Les astronomes sont aux anges.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il fut, avant d'être détrôné par Emmanuel Macron, le président de la République le plus jeune, 48 ans seulement à son élection en 74. Il est celui qui aura vécu le plus longtemps, 94 ans. Valéry Giscard d'Estaing est mort hier soir des suites du Covid, entouré des siens dans sa propriété d'Auton dans le Loir-et-Cher. Emmanuel Macron lui rendra hommage ce soir à 20h lors d'une adresse aux Français. Giscard en trois moments clés. Avril 69, il donne le coup de grâce à De Gaulle en disant non au référendum. Tout compte fait, avec regret, mais avec certitude. Les gaullistes historiques ne lui ont jamais pardonné. 19 mai 74, au terme d'une campagne éclair, moderne, inspirée des méthodes de marketing à l'américaine, VGE coiffe de justesse François Mitterrand. Il est porté à l'Élysée par de grandes ambitions.
J'ai compris dans cette campagne que vous souhaitiez le changement. Le changement politique, économique et social. Vous ne serez pas déçus. Je sais que de ce jour date une ère nouvelle de la politique française, celle du rajeunissement et celle du changement de la France.
Le changement symbolisé par des grandes réformes de sa première année de mandat, abaissement de la majorité à 18 ans, légalisation de l'IVG, mais 7 ans plus tard, la crise pétrolière, les scandales et le travail de sape mené par son ex-allié Jacques Chirac le conduiront à la défaite du 10 mai 81, un échec qui le laissera pour le restant de ses jours meurtri. Ce n'est pas de l'humiliation, mais quelque chose de plus sévère encore, a-t-il écrit dans ses mémoires. C'est la frustration de l'œuvre inachevée. Giscard sur sa campagne ratée de 81, au micro de Frédéric Taddeï il y a 10 ans.
Je n'ai pas compris ce qu'était la réélection. Et pourtant j'aurais dû voir que la réélection c'était difficile. C'est difficile parce que les gens qui se présentent croient qu'on les jugera sur ce qu'ils ont fait. Et comme ce que nous avions fait, je croyais en tout cas que c'était pas mal, hein, je me suis dit, bon, c'est pas mal, on continue. Non, non. Ils élisent en fonction de ce qui va être fait. Et quand on propose trop peu, quand on ouvre trop peu de perspectives, d'espace, ce que j'ai fait à tort, hein, à ce moment-là, ils ne votent pas pour vous.
Les regrets éternels de Valéry Giscard d'Estaing qui s'est ensuite largement replié en Auvergne, région qu'il a présidée et dans son fief de Chamalières avec le château familial de la Varvasse qui a été vendu il y a quelques mois. Jean-Luc Bougeon, vous êtes à Chamalières pour Europe 1.
Oui, dont la mairie, hein, Chamalières, a été dirigée par VGE durant 7 ans, entre 67 et 74. C'est d'ailleurs depuis le perron de cette mairie qu'il avait fait acte de candidature à la présidentielle le 8 avril 74. Alors ce matin, les drapeaux ont été mis en berne. Des registres de condoléances vont être installés cet après-midi. Car Chamalières, c'était son ancrage auvergnat. Son fils Louis en est d'ailleurs toujours maire aujourd'hui. Une ville et une région pour qui il a beaucoup fait, estime Claude Aubert, adjoint à la mairie.
Il a fait beaucoup pour la région, il a fait la Grande Aille, il a fait le Zénith, il a fait Vulcania. Le siège de la région était sur la commune de Chamalières. C'est quelqu'un qui a laissé une empreinte très très forte sur Chamalières.
L'Auvergne qu'il conçoit comme un refuge après sa défaite face à François Mitterrand en 81. Il devient donc président du conseil régional. Il sera également élu 11 fois député du Puy-de-Dôme. Il est donc ici très apprécié avec toujours quand même une petite réserve, explique Robert Herrer à la retraite.
J'ai eu à dîner chez moi, j'ai été dîner chez lui. C'était un personnage qui avait une très grande culture, mais ambivalent. Quelqu'un qui pouvait vous montrer une familiarité sympathique. Et puis de temps en temps, il restait sur son grand à soi, il était dans son monde.
Un constat partagé aussi par Michel, qui l'a également bien connu.
C'était un homme charmant, mais compte tenu de son éducation et de sa stature, pouvait paraître aux gens distant. Et il souffrait de ne pas pouvoir avoir ce contact naturel vis-à-vis des gens.
Voilà, tout ça malgré l'accordéon chez Daniel Gilbert, c'était à Chamalières, malgré les déjeuners avec les Français. C'est sans doute pour ça qu'il venait beaucoup moins ici ces dernières années. Il avait fini par trouver les Auvergnats un peu ingrats vis-à-vis de lui, comme les Français quelques années auparavant.
Jean-Luc Bougeon, envoyé spécial d'Europe 1 à Chamalières, là où, vous l'avez rappelé Jean-Luc, Giscard avait lancé sa campagne en 1974. Je voudrais regarder la France au fond des yeux, lui dire mon message et écouter le sien. Bonjour Raymond Depardon.
Bonjour.
Cette campagne, vous l'avez filmée au plus près pour un documentaire extraordinaire, longtemps resté invisible, une partie de campagne qui donne à voir de bout en bout un homme seul comme détaché de son entourage et du reste du monde, très sûr de lui, jamais inquiet, presque jamais nerveux. C'est comme ça que vous l'aviez perçu lors du tournage ?
Oui, c'est vrai. Alors... Sur sa solitude, il expliquait un peu aux éditorialistes, c'était pour se préparer à cette grande solitude de qui allait être le pouvoir. C'était assez étrange, mais moi, ça m'arrangeait bien. C'est vrai que c'est une longue histoire, c'est une rencontre un peu, quand il s'est, le 8 avril, quand il s'est porté candidat. Je travaillais comme photographe pour l'Express. À l'aller, il m'a donné des times à lire pour se concentrer, pour pas engager de conversation. Et au retour, l'hôtesse de l'avion, un avion de location, bien sûr, nous a proposé du champagne. Et je pense qu'on avait faim, tous les deux, et on était un petit peu pompettes. Et là, il a commencé à parler, à dire, voilà, c'était l'aboutissement de son ambition d'être un homme politique qui se portait candidat. Et puis, il disait, si ça marche pas, bon, bah c'est pas grave, j'irai faire des chasses en Afrique. Et moi, j'étais là à me dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que... Il savait très bien que je pouvais pas enregistrer, puisque j'étais un photographe, donc ça avait pas de valeur. Et je lui ai suggéré de faire un film. Ouais. Alors lui, il a pensé que la télé allait le faire. J'ai dit, mais non, la télé va rien faire du tout, parce qu'elle sera... Il y a le Conseil d'État qui va la surveiller, donc elle ne pourra pas garder tout ce matériel qu'on va tourner. Ah bon ? Et donc c'est un peu comme ça que je lui ai montré un film, pour montrer que j'étais aussi cinéaste, que j'avais pas beaucoup d'expérience à l'époque. C'était un petit film qui s'appelle Yann Palach, que j'avais tourné en 69 à Prague, et il est venu le voir dans une salle de vision rue de Washington la semaine suivante.
Et c'est comme ça que tout a commencé. Alors, il y a... On ne peut pas parler de votre film, Raymond Depardon, sans évoquer cette scène unique dans l'histoire moderne d'un homme qui s'apprête à devenir président, qui va avoir la confirmation qu'il est élu. Il est seul encore dans son bureau de ministre des Finances, dans une aile du Louvre, et il réagit sans émotion apparente.
Oui, alors ce soir-là, d'ailleurs, c'est lui qui avait mis en scène. Il m'a dit, je serai tout seul, je ne veux pas que... J'ai demandé même à ma femme de pas venir, et aucun de mes collaborateurs. Il avait souvent, au téléphone, bien sûr, Monsieur Poniatowski. Il a eu, après j'ai deviné dans les roches, aussi Monsieur Jacques Chirac. Et là, c'était un bureau hallucinant, ce bureau du Louvre, avec une très grande terrasse, là où est maintenant la pyramide. Mmh. Il était de mauvaise humeur. Je sais plus, je crois. Il nous avait préparé avec l'ingénieur du son et moi un petit repas. Ça marchait pas. Il était agacé par tous ces gens qui parlaient en son nom. Et effectivement, la télécommande ne marchait pas. Alors, on était dans un cadre quand même relativement incroyable avec des pendules du 15e siècle, magnifiques en or. Et puis, il changeait de chaîne à la main, comme on faisait à l'époque, un peu au poste de télé. Et à un moment, il est élu, quoi, bien sûr, voilà. Il dit rien, il bouge pas. Et moi, je filme en continu, bien sûr. Je bouge pas de place, je suis un parfait abat-jour, voilà. C'était un peu la méthode du cinéma que j'avais envie de faire. Et il change de chaîne.
Oui.
Et là, il tombe sur un téléfilm américain où l'actrice, une noire américaine, dit ben voilà, je suis pas content de toi parce qu'on parle de toi sur toutes les chaînes de télé. Donc c'est un truc incroyable, quoi. Voilà. Ouais.
Et il finit par se passer un disque de musique classique, hein. Il met un disque sur sa platine.
Oui, oui, oui. Il aimait beaucoup tout ça, toute la musique classique. Il était. On entendait, c'était complètement surréaliste, c'est presque une pièce de théâtre, quoi. On entendait les voitures, les klaxons, les gens qui. La victoire en chantant, c'était le grand refrain de l'époque. Et il était là tout seul, avec son téléphone. Et à l'époque, c'était des téléphones qui n'étaient pas du tout les mêmes. Il y avait la télé, mais il avait coupé le son. C'était quelque chose que je dois dire quand même. Et moi, je ne me posais pas de questions. J'avais mis un plafonnier pour un peu réchauffer un peu la lumière. Et en plus, cette pendule faisait des petites, toutes les minutes, toutes les 2-3 minutes, elle faisait une petite sonnerie magnifique, et elle ponctuait, et je me souviens qu'il a un peu, non, il a regardé ses amis, hein, puisque c'était Poniatowski surtout, mais Dordano qui était à la télévision, et il dit Péror, ils savent pas de quoi ils parlent. Ouais. Et puis je me souviens qu'à un moment il s'est arrêté et la pendule a fait une petite musique comme ça. Et on peut imaginer comme ça que si j'avais fait du montage son comme dans une film de fiction, quoi.
Ouais. Vous vous êtes demandé, Raymond Depardon, quelle était la part de sincérité et la part d'affaîtrie dans les comportements que vous avez filmés?
Oui, un peu, mais c'est vrai que. Au début, quand j'ai fait ce film, au début, j'avais pas grand-chose. Hein. Je voulais pas filmer les discours. J'avais des bains de foule, bien sûr, mais c'était toujours un peu les mêmes. Et je me souviens que j'ai pris rendez-vous avec lui. J'ai dit, j'arrête. Alors, c'était fou, quoi. Je devais être inconscient, mais j'ai dit, j'arrête. Et il me dit, non. Parce qu'il était très sensible à la foule. Et il voulait que je filme les discours, je les filmais pas, mais la foule, ça, il savait que je les avais déjà dans la boîte. Et ça avait été le choc de sa vie. C'était quelqu'un qui venait des ministères, et en dehors de ses chasses, de ses sorties en Auvergne, c'était un grand commis d'État. Donc là, de seul coup, il sortait et tout le monde l'applaudissait, le regardait. Il a été très impressionné par les foules. Et alors, je lui ai dit, écoutez, j'arrête parce que c'est pas intéressant, le film. Ah bon? Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça soit intéressant? Et donc, j'ai énuméré trois choses. Et j'étais à l'époque très timide, mais je me suis lancé. J'ai dit, il faut que je puisse monter dans une voiture avec vous dans un meeting, ce qu'il a fait à Clermont-Ferrand, prendre à côté du chauffeur et tourner tout le trajet de l'avion jusqu'au meeting, ce qui était incroyable parce qu'il avait exprès fait il avait choisi un meeting où il y avait vraiment quelqu'un de pas très important. Et il se repeigne, il pose beaucoup de questions, et moi j'étais un peu effondré parce que je me disais ça n'a aucun intérêt, mais c'était justement ça qui était intéressant, c'est qu'on croit toujours quand on est sur le bord de la route, qu'on voit passer à des motards et une voiture, une DS à l'époque, on se dit tiens voilà, ça doit être des choses très très brillantes que les gens se disent à l'intérieur, mais non, pas du tout, c'était assez banal.
Effectivement.
Et puis la deuxième chose, je lui ai demandé forcément d'être filmer une réunion entre les deux tours. Ce qui n'est sans doute jamais fait.
Et ce qu'on voit...
stratégie politique.
Et effectivement. Et c'est là où il dit il y a deux stratégies possibles. Soit ne rien faire et on est sûr d'être élu. Et soit on essaye quand même de faire quelque chose pour la suite. Effectivement, c'est un grand film politique qu'il faut revoir. Parti de campagne 74. Raymond Depardon, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Bonne journée.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, la suite, Giscard l'Européen et le reste de l'actu, la stratégie de vaccination.
Europe Midi.
Patrick Cohen.
Avec la mort de Valéry Giscard d'Estaing, l'Allemagne perd un ami et nous avons tous perdu un grand Européen. Déclaration ce matin de la chancelière Angela Merkel. Tandis que la presse allemande se souvient du duo franco-allemand exemplaire que Giscard formait dans les années 70 avec le social-démocrate Helmut Schmidt. Presque aucun autre président français du XXe siècle n'a eu une relation aussi étroite et complexe avec l'Allemagne, écrit Die Welt, VGE. Aurait voulu, dans les années 90, devenir président de l'Europe. C'était sa nouvelle ambition. Elle a été déçue. Mais Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles. Giscard n'en a pas moins été l'un des architectes de l'Europe que nous connaissons aujourd'hui.
Oui, par exemple, c'est lui qui, en 1974, a l'idée d'instaurer le Conseil européen, la réunion régulière des dirigeants des pays membres. Aujourd'hui, ces sommets incontournables rythment la vie de l'Union européenne. Avec son complice, le chancelier allemand Helmut Schmidt, il crée le système monétaire européen, les prémices des rapprochements monétaires qui aboutiront à l'euro. Mais son grand œuvre, c'est la Convention pour l'avenir de l'Europe qu'il préside au début des années 2000. La constitution qu'elle rédige devait rendre l'Europe élargie plus gouvernable, plus lisible et selon lui plus proche des gens. On connaît la suite, les Français la rejettent par référendum en 2005, un échec personnel, même si le texte est en partie repris dans le traité de Lisbonne qui organise l'Europe aujourd'hui. Dans une interview de 2013, Giscard estimait qu'il était sans doute trop en avance.
Moi je pensais qu'avec la pratique, la liberté de circulation, le tourisme qui va partout, il y aurait quand même une espèce de rapprochement culturel. D'ailleurs, les passeports, c'est les passeports de l'Union européenne. Ils peuvent dire « je suis européen espagnol, je suis européen suédois, je suis européen portugais ». Et moi, je suis dans cette culture-là, mais malheureusement, les Européens ne le sont pas encore.
Voilà, nous pleurons un grand Européen qui continuera de nous inspirer, écrit aujourd'hui l'actuelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1, merci. Un mot encore des réactions politiques en France. La plupart saluent le président réformateur. Valérie Pécresse et Rachida Dati appellent à donner le nom de Valéry Giscard d'Estaing au musée d'Orsay, dont il avait décidé la création dans le bâtiment de l'ancienne gare. À noter encore l'hommage de Jean-Marie Le Pen. Contrairement à Chirac, dit Le Pen, Valéry Giscard d'Estaing ne fut jamais déloyal à l'égard de la droite nationale. Fin de citation. Europe 1, il est 12h49. Le reste de l'actualité, c'est d'abord la crise sanitaire et après les deux confinements, une troisième marche qu'il ne faudra pas rater, celle de la stratégie vaccinale. Elle sera détaillée à partir de 18h par Jean Castex et plusieurs de ses ministres. Mais le gouvernement devrait suivre la feuille de route recommandée lundi par la Haute Autorité de Santé. Ça se dessine comment, Victor Delande ?
D'abord sur la temporalité, deux grandes phases sont envisagées. Une première campagne de vaccination très ciblée entre fin décembre et début janvier pour les personnes prioritaires, les résidents dans les EHPAD notamment. Dans un deuxième temps, une campagne plus large destinée au grand public entre avril et juin. Comment se fera ensuite cette campagne ? L'objectif, c'est de ne surtout pas reproduire l'erreur de 2009 avec la campagne contre le virus H1N1. Des vaccins à la chaîne avec de grands vaccinodromes et au final, très peu de personnes vaccinées. Cette fois, le gouvernement veut faire tout l'inverse, partir du terrain, en particulier des 52 000 médecins généralistes. Ce sont eux qui connaissent par cœur les patients les plus vulnérables. Ensuite, qui d'autre pour convaincre une personne méfiante de se faire vacciner ? Écoutez Jean-Paul Hamon, le président d'honneur de la Fédération des médecins de France, au micro d'Ève Roger.
Le meilleur exemple, c'est de dire que moi, je vais me faire vacciner, sans hésitation. C'est la même chose quand les gens ont une réticence à l'égard de l'hépatite B. Je leur dis, mais écoutez, j'ai vacciné mon fils, j'ai vacciné mes petits-enfants. N'ayez aucune crainte, j'ai pas envie que ma famille soit malade.
S'appuyer donc sur les hommes de terrain, les généralistes. Ensuite, où vacciner ? Là, ça se complique, surtout avec le premier vaccin disponible, celui de Pfizer-BioNTech, qui nécessite des supercongélateurs à moins 80 degrés. Une centaine d'hôpitaux vont servir de lieu de stockage, un par département. Mais une fois les vaccins sortis des congélateurs, top chrono, les professionnels de santé auront 5 jours, pas plus, pour les administrer. Dans les EHPAD, où les médecins coordinateurs seront les relais, dans les cabinets médicaux également, à domicile un peu plus tard, ou dans les pharmacies qui sont déjà dans les starting blocks.
Victor Delande.
Europe Midi, Patrick Cohen.
À suivre, les empoignades du procès Bismuth-Sarkozy et les étoiles par million révélé par le télescope Gaïa.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Audience suspendue hier soir au procès Bismuth-Sarkozy. Elle doit reprendre aujourd'hui à 13h30. Suspendue par la présidente. Après un incident aussi violent qu'inhabituel, les avocats ont failli en venir aux mains. qui témoignent du climat de tension permanente qui baigne ce procès, Gladys Laffitte.
Oui, c'est une scène qui a créé la stupeur, on peut le dire, dans la salle. Une scène très bruyante, très rapide, en plein interrogatoire de Gilbert Azibert. Il faut dire qu'après 40 ans de carrière dans la magistrature, il vit très mal les accusations de corruption dont il se défend vivement à la barre et souvent en défiant le parquet national financier, dans le regard mais aussi dans l'attitude. C'est donc durant les questions du PNF que le ton est monté, vite et fort, avec Gilbert Azibert, mais aussi et surtout avec les avocats de la défense. Ils se sont insurgés d'une question jugée plus que maladroite. Le contexte est aussi celui-là. Depuis le début de cette enquête, démarrée il y a 6 ans et demi, avocats et PNF se livrent à une bataille de procédures. Et forcément, à l'audience flottait depuis l'ouverture d'un procès déjà fort à enjeu pour l'ancien président de la République notamment, une tension latente. Ajoutez à cela l'étrange posture d'un avocat qui tient à tout prix à se constituer partie civile, perturbateur au point qu'il a failli en venir aux mains avec l'un des avocats de Thierry Herzog hier soir, ajoutant de la confusion à la confusion. Bref, l'audience doit reprendre dans une heure, plus sereinement l'espérait hier soir la présidente du tribunal.
Gladys Laffitte est à l'instant mise en examen de Claude Guéant pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de la campagne Sarkozy de 2007. La tête dans les étoiles, ils sont des milliers de scientifiques et de fans d'astronomie à découvrir, à scruter depuis quelques minutes la fabuleuse carte de notre galaxie dévoilée par le télescope spatial européen Gaïa avec une précision inédite et près de combien ? 2 milliards d'étoiles, Théo Manval ?
Oui, 1 milliard 800 000 étoiles, près de 15 000 astéroïdes en couleur avec leur position, leur vitesse de déplacement dans la voûte céleste. Les scientifiques, les astronomes voient se dessiner sous leurs yeux presque en temps réel l'évolution de notre galaxie de l'intérieur. La trajectoire, par exemple, d'étoiles qui sont désormais nos voisines mais qui sont arrivées depuis l'extérieur de la voie lactée. La mesure de leur itinéraire est 3 fois plus précise aujourd'hui que sur la précédente base de données. Et nous tous, Patrick, le grand public, vous, moi, Anissa qui vient de s'installer en studio, on a aussi la possibilité de les explorer, ces étoiles, de voyager virtuellement dans ces cartes 3D. Il suffit de taper GaiaSky sur internet, GaiaSky sur votre ordinateur, et vous embarquez avec Clément Autier de l'Observatoire de Paris.
Donc là, vous voyez qu'on vient de dézoomer et qu'on vient d'atteindre les planètes de notre système solaire. Alors, avoir les déplacements des étoiles, ça nous permet notamment de retrouver les étoiles doubles. Donc, il y en a une qui vient de passer. Ce sont des étoiles qui tournent l'une autour de l'autre et qui se déplacent d'un même mouvement dans la galaxie.
Comme un ballet spatial, en quelque sorte, qui se déroule devant vos yeux. Gaïa nous permet d'explorer tout ce qui se trouve à 320 années-lumière autour de nous. C'est déjà considérable, mais ce n'est qu'un 300e du diamètre de notre voie lactée. Donc, vous voyez, l'exploration ne fait que commencer.
Théo Manval, je rappelle, GaiaSky, G-A-I-A. Sky, donc tout attaché, vous tapez ça et vous avez tout ce qu'il faut. Anissa Sky nous donne des nouvelles peut-être un petit peu moins précises du temps gris et pluvieux cet après-midi.
Moins réjouissante, effectivement. C'est en Bretagne, sur les Pays de la Loire, la Normandie et les Hauts-de-France, Patrick, que l'après-midi sera la plus pluvieuse. À l'avant de cette perturbation de la Gironde jusqu'à l'Alsace, les pluies sont plus faibles et intermittentes. Sur la façade atlantique, le vent d'ouest se renforce. Attention, on attend des cumuls importants de pluie. De l'Auvergne aux Alpes, là aussi, le ciel est gris. Il neige toujours sur les reliefs. Finalement, il n'y a que dans le sud-est qu'il fera beau et sur la Corse. Les températures, elles sont fraîches dans l'Est, 4 à Strasbourg, 6 à Aurillac, 8 à Clermont et Lille, 9 à Paris, 10 à Nantes et 15 pour Bastia.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis. Dans moins de 3 minutes, d'autres informations avec le 13h de Christophe Lamarre. Bonne journée.